La question du jour était la suivante. La position de la France sur la guerre entre Israël et le Hamas vous convient-elle? Alors Lise, je suis curieux de connaître la réponse, tiens.
Eh ben c'est non, hein. C'est franchement non même. Hein. C'est 90% de non hein, sur Facebook, 85% de non sur Insta et 100% de non sur Twitter. Donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas une réponse claire de la part de nos auditeurs. Et on va en discuter avec notre invité, Stéphane Vanisch, chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, pourquoi est-ce que cette position de la France, elle ne convient pas à nos auditeurs, à Stéphane Vanisch?
Ben, il n'y a pas qu'à nos auditeurs, c'est le souci de la France, justement. En fait, c'est la faillite du, de vouloir additionner, de la part de Macron et du ministre des Affaires étrangères, d'additionner les choses. Au lieu de cliver et d'expliquer les choses clairement, il y a le « en même temps » qui intervient dans la politique étrangère. Et du coup, ça met, il y a plusieurs malaises. Premier malaise, c'est qu'on met Israël et le Hamas sur le même plan. Et donc, une démocratie, un État de droit, une démocratie, sur le même plan qu'un État terroriste ayant fait un crime contre l'humanité, c'est quand même un vrai souci. La deuxième chose, c'est un positionnement de la France qui se veut pacifique, entre guillemets, et contradictoire, parce que en même temps, la France veut bien qu'on fasse la guerre au Hamas, mais en même temps, elle veut un cessez-le-feu immédiat, trêve immédiate et durable, c'est-à-dire, bref, il n'y a plus de guerre, c'est ça que ça veut dire concrètement. Et donc, ces expressions complètement contradictoires font que la France, un, satisfait personne, ça c'est une première chose, et deux, surtout, n'est de moins en moins crédible parce que, tout simplement, ce n'est pas professionnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un enjeu extrêmement important pour l'Occident, pas pour Israël, mais pour l'Occident, par rapport au terrorisme islamique, et aussi important que celui de Daesh, en fait. Et la France n'est absolument pas à la hauteur, y compris parce que la France ne demande même pas au Hamas de libérer les otages, même les otages français. C'est ce que je veux tout dire.
Bien sûr. Alors, Catherine Colonna minimisait ça, puisque en fait, mardi, elle disait « Nous avons une divergence de point de vue avec Israël dans la façon dont le pays exerce son droit à se défendre ». Donc, on voit bien là que la ministre française des Affaires étrangères a un discours très en deçà, en fait, de la réalité.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que… pour rassurer peut-être la communauté musulmane française, parce que les Français sont pour Israël, sont pour ce que l'on fait à Gaza, pour peut-être rassurer les pays arabes, je ne sais pas, il y a peut-être quelques avions à vendre, il y a une espèce de discours qui est un peu, comment dirais-je, évanescent. C'est-à-dire que quand elle dit, par exemple, Israël doit respecter bien davantage le droit international, on ne respecte pas davantage un droit. Soit on le respecte, soit on ne le respecte pas, par définition. Et là, Israël respecte le droit international, y compris les quelques bombes au phosphore qu'on a envoyées au début de la guerre, étaient dans le cadre du droit international, contrairement à ce que l'on peut dire. Et donc, du coup, ce discours-là et l'exigence, je dirais, qu'on a vis-à-vis d'Israël et pas par rapport vis-à-vis d'eux-mêmes, par exemple la France à Mossoul, la France en Côte d'Ivoire, sans parler de la complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda, la France n'a pas à donner de leçons, sans parler des colonisations, des colonies bien sûr, mais la France n'a pas à nous donner des leçons spécifiques par rapport à ce qu'elle a fait quand elle était à la manœuvre. Et la deuxième chose également, c'est au Liban, il essaye d'avoir un système équilibré, ils ne veulent pas qu'on attaque le Liban, mais on oublie que c'est le Hezbollah qui nous a attaqué le 8 octobre. Ce n'est pas nous qui avons enclenché les hostilités, même si on avait bien envie de le faire, ça c'est vrai. Mais on ne l'a pas fait, vu que Gallant n'a été empêché par Netanyahou. Et donc du coup, là aussi elle oublie, c'est-à-dire quand elle va au Liban, elle explique que ben, pour les Libanais et pour le Liban, ça ne serait pas bien qu'il y ait une guerre avec Israël, sans quoi on est tout à fait d'accord pour eux. Mais en même temps, elle oublie simplement que c'est le Hezbollah qui a commencé, et la deuxième chose, il n'est même pas nommé. Mais la deuxième chose, c'est qu'il oublie aussi que ce qui résoudrait le problème, c'est l'application de la résolution de l'ONU auquel les Français sont si attachés d'habitude. La résolution 1701 n'a pas été nommée non plus. Si vous voulez. Donc ce n'est pas très sérieux. À force de vouloir fâcher personne, on fâche tout le monde, et y compris à l'intérieur de la politique interne à la France. En même temps, on essaye de faire plaisir aux musulmans de France, et encore, je ne suis pas sûr que ça leur fasse tous plaisir, mais en même temps, il y a une loi qui vient d'être votée avec le Front National sur l'immigration. Donc, on voit bien cette contradiction de l'État, du gouvernement français actuel, qui n'est pas juste liée à Israël, mais liée visiblement à leur mode de gouvernance, qui est inquiétante, d'une part, et surtout, qui crée un désamorçage complet de la parole française, c'est-à-dire que tout le monde s'en fiche à peu près aussi bien libanais que nous-mêmes.
Alors pourtant, Eli Cohen l'a reçu, on va dire, plutôt sympathiquement, et il avait l'air de penser, ou en tout cas c'est ce qu'il a dit, que la France pouvait jouer un plus grand rôle au Liban. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Stéphane, on sent bien qu'il y a une limite à cette politique des deux camps de ménager la chèvre et le chou en permanence, puisque donc sur le Liban, elle a dit nous faisons passer le message aux uns et aux autres que dans des circonstances comme celle dans ce moment, il est de leur responsabilité de tout faire pour éviter un engrenage. Donc là encore, on voit bien que Israël et le Hezbollah sont mis sur le même plan. Et tout aussi choquant, de même que le terrorisme n'est jamais justifiable, il faut dire que la colonisation est illégale. Donc là encore, on a schlack sur le même plan. Le terrorisme, ok, on n'a pas condamné tout ça, et la colonisation illégale, et en rajoutant des exactions sur place qui sont inadmissibles, on en a été témoin. Est-ce que c'était vraiment le moment d'aller rappeler encore une fois cette affaire des implantations?
Alors, c'est le problème de vouloir être équilibré dans une situation qui ne l'est pas. C'est-à-dire d'un côté, je disais tout à l'heure, il y a un État de droit, de l'autre côté, il y a des États, le Libanais est un État de droit terrorisé par le Hezbollah. Et donc, du coup, c'est un état de droit très relatif. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où, en voulant être équilibré, on n'a pas raison. Ce n'est pas parce qu'on a une position équilibrée que l'on a raison. Des fois, la situation nous donne tort à l'équilibre. C'est le déséquilibre qui a raison. Et donc, notamment, c'est Israël qui a raison, à mon avis, pour des raisons démocratiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ni le Hezbollah, ni le Hamas continuer d'agir ainsi, parce que c'est simplement l'Iran qui est un régime totalitaire. Qui agit à travers eux. La deuxième chose sur les colonies, j'aimerais dire quelque chose. Les colonies, d'abord, tout le monde oublie que ce qui a été détruit, même si la façon dont ça a été détruit n'est pas acceptable, c'est des constructions illégales financées par l'Union européenne de la zone C. La zone C, c'est la zone qui est gérée par Israël, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau civil. Donc, c'est une zone qui ne dépend pas de l'autorité palestinienne. Et cette zone C, elle est reconnue légalement, y compris la France l'a reconnue, parce que tout le monde a reconnu les accords d'Oslo. Et c'est les accords d'Oslo qui créent la légalité de la zone C. C'est-à-dire qu'au-delà de la méthode de destruction, l'Union européenne et la France financent des actes illégaux dans la zone C. Et ça, j'aimerais bien qu'on rappelle l'état de droit dans tous les côtés. C'est-à-dire, d'un côté, nous n'avons pas le droit de rentrer en zone A comme on le fait aujourd'hui, ça c'est vrai, mais en même temps, les Palestiniens n'ont pas le droit de construire de manière illégale avec l'aide de l'Union européenne en zone C comme ils le font aujourd'hui. Et donc, ce qui me gêne moi beaucoup, c'est le deux poids deux mesures, aussitôt qu'on parle des territoires, dans le système symbolique de l'autorité palestinienne, symbolique de l'État palestinien, on oublie les droits d'Israël, les droits légaux tout simplement. Je tiens à signaler que légalement, les accords d'Oslo font partie des accords de Camp David avec l'Égypte, c'est-à-dire c'est un accord de paix. C'est le chapitre 3 de Camp David, c'est-à-dire c'est un accord de paix reconnu internationalement, donc ça a force de loi. Et ça, on l'oublie, mais les gouvernants israéliens l'oublient également, d'ailleurs entre nous, ce n'est pas que la France. Mais vous voyez, il y a toujours ce problème-là. Et cette approximation fait que la France n'a plus une parole performative, n'a plus une parole crédible, même pour les Libanais, même pour l'État libanais qui est quand même très faible et au bord de la faillite. Mais Emmanuel Macron, il y a un an, a demandé qu'il y ait un gouvernement qui se mette en place, et on l'attend toujours. Le président n'existe toujours pas, l'État libanais. Donc on voit bien que la France n'a même plus le poids sur le Liban. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un poids sur le Liban, c'est les États-Unis et la France, c'est vrai, mais la France n'a pas un poids aussi important que ça. Et ce que dit le ministre des Affaires étrangères israélien est très diplomatique et fait plaisir à la France, mais je ne suis pas sûr que réellement on attende quelque chose de cette parole.
Alors, vous aviez cité justement, Stéphane Vanisch, la loi sur l'immigration qui a été votée hier soir au Parlement, et ça sera ma dernière question. C'est une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron, même si une partie de sa majorité n'a pas voulu soutenir ce texte, qui lui-même a été soutenu par le Rassemblement national. Est-ce que c'est finalement un texte qui va permettre à la communauté juive, peut-être, d'être un peu plus tranquille ou d'avoir moins d'incidents antisémites, ou à votre avis, il n'y a pas de rapport entre cette immigration contrôlée depuis la loi en question et les incidents antisémites d'aujourd'hui?
Quand on regarde le fond, d'abord, il n'y a aucun rapport avec la communauté juive. C'est-à-dire, quand on regarde le fond de la loi, ce n'est même pas un contrôle de l'immigration, on va essayer de commencer à contrôler quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est comme une victoire d'Emmanuel Macron, c'est une victoire du Rassemblement national surtout. Parce que pour la première fois en France, on a le centre-droit, la droite républicaine et le Rassemblement national d'extrême droite qui ont voté ensemble sur un projet qui n'est pas anodin, qui est celui symbolique de l'immigration. Alors, ce qu'il y a dans le projet de loi pour être franc, ça n'a pas changé grand-chose, à part quelques financements d'aide sociale en moins. C'est ça qui va se passer concrètement, parce que c'est pas le projet de loi qui va bloquer les frontières de la France. Ça, c'est évident. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, et y compris parce que je travaille beaucoup sur le Rassemblement national, c'est la victoire idéologique du Rassemblement national par l'idée de préférence nationale qui, je ne suis pas sûr, passe le Conseil constitutionnel français. Mais le fait qu'il y ait un vote collectif de toute la droite et de l'extrême droite ensemble, sur un sujet aussi névralgique, aussi symbolique pour la démocratie française, et me paraît de mauvais augure pour l'avenir de la France, dans le premier temps, mais surtout, ce n'est pas une victoire de Macron ou du Premier ministre, c'est d'abord une victoire idéologique, une victoire de valeurs du Rassemblement national, parce que pour la première fois en France, la préférence nationale va être nommée dans une loi, ce qui est un vrai changement au niveau démocratique. Je ne dis pas que d'autres pays le font, je ne dis pas que c'est la fin de la démocratie française, mais c'est quand même le début de quelque chose qui ne me paraît pas de bon goût, et je ne suis pas sûr que ça soit très bien pour Gilles de France de manière générale, parce qu'il n'y a pas que les islamistes, il y a aussi l'extrême droite, et ça, je dirais, ça tape dans les deux, ça tape dans les deux sens, et le lien, l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que le discours anti-immigré du Rassemblement national nourrit le discours des frères musulmans en disant « Vous voyez, vous êtes musulmans, vous n'êtes pas français, etc. » Et l'un entretient l'autre et les juifs sont entre les deux.
Merci beaucoup à Stéphane Vaniche pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours. Une très bonne journée à vous et à bientôt.
Aussi, à bientôt, au revoir.